Mais nous, là, on voulait commencer par ta relation personnelle à lui, en commençant par ta, par la rencontre. Enfin, tout le monde, on en a déjà parlé un peu dans la voiture, mais
non. Alors, où, quand moi, je me suis occupé de ça, donc la Cinémathèque, et j'étais assez proche. Quand j'ai créé la Cinémathèque, j'avais déjà fait, on avait fait les Faunets, et donc j'étais assez proche des surréalistes. Hein. Et puis j'étais aussi proche de gens de Lyon, parce que j'aimais bien Lyon. Ma femme était lyonnaise, je descendais à Lyon, et là j'ai rencontré des Lyonnais. Et c'est dans ces Lyonnais, j'ai rencontré un type qui s'appelle Charder, qui a monté Positif, et un copain à lui qui s'appelait Bertrand Tavernier, voilà. Et puis, un jour, ils ont dit, on fait un truc à autant Lara, que je ne connaissais pas. Et je suis descendu, et là, j'ai rencontré autant Lara, on a passé quelques films, on a beaucoup parlé, là, je l'ai beaucoup rencontré, et donc, là, après, je l'ai revu assez souvent à Paris. J'allais de Lausanne à Paris assez souvent parce que je travaillais surtout. Vous savez, la Cinémathèque, c'était nul. Hein. L'État ne s'en occupait pas. Hein. On dit, qui c'est ce type? Pourquoi il met des bobines les unes sur les autres, hein. En plus, c'est des bobines. À l'époque, c'était des bobines nitrates, hein, si vous le savez. Donc, ça pouvait brûler. On disait, oui, les dames... Ben, les petits-enfants vont crever à cause de ce type, enfin, ben, qui en plus n'était pas très bien politiquement placé. Bref, là, ça a très très mal marché. Alors, j'avais beaucoup de relations à Paris, et donc je l'ai beaucoup vu, et puis lentement, on est devenus assez amis. Moi, j'ai lu ça, et puis à un moment donné, donc... il m'a dit l'État français, je ne peux pas dire que c'est affreux, je suis contre ces gens, je ne veux pas leur laisser mes affaires, donc je les donnerai à la Cinémathèque. Et donc j'avais monté un truc à la naissance de la Cinémathèque, quand j'ai quitté le bureau derrière la cathédrale pour venir à Montbenon. Et ça a été fait, en fait, avec lui. On avait fait un truc sur lui. On a fait une exposition de choses. Il est venu, il a fait un discours et il a dit, je donne toutes mes archives à la Cinémathèque.
Et donc là, on est en 81.
82.
82, donc c'est le moment du livre.
82,
tout est au même moment, le livre. 81,
82. Ouais. Alors, il a fait un discours très bien, forcément stendhalien, puisqu'il était très stendhalien, et il a dit, je donne tout là. Alors, à l'époque, je le voyais à Cannes, à la fin, je ne le voyais plus, parce que Cannes ne l'invitait plus. Bon, bien, il n'était pas là, mais je le voyais à Antibes, et je connaissais bien une des femmes qui travaillait avec lui, j'avais connu sa femme à Paris. Et donc là, je le voyais, pas à Cannes, mais je le voyais à Antibes en revenant ou en faisant un tour à Antibes. Et puis un jour, je lui ai dit, enfin, j'avais monté un truc pour lui, donc à Locarno. On a fait une rétrospective autant là à Locarno. C'était pas si simple que ça. Les copies étaient assez mauvais état.
Mais il n'y avait pas de catalogue, tout
était déjà trafiqué par les censures. Enfin, bref. Mais enfin, quand même,
il y avait un catalogue, là, alors, hein? Il y avait un catalogue qui était lié à autant.
Il n'y a pas eu de catalogue.
Non, voilà. Ouais,
non, il n'y a pas eu de catalogue.
C'était vraiment la rétrospective.
Il y a eu un papier où on disait voilà ce qu'on passait.
À Lyon,
il a suivi, parce que, encore une chose que je peux dire, ça a été un homme d'une équipe. Chez lui, il y a toujours les mêmes gens, presque toujours les mêmes gens.
C'est notre deuxième,
Par exemple, Max Douy, quand il a rencontré Max Douy, Max Douy n'a plus cessé de travailler avec lui. D'ailleurs, moi, j'ai été à son enterrement. On n'était pas nombreux. Hein. On était, je pense, 5 ou 8 à tout casser. On n'était pas 10. Et il y avait Max Douy, bien, moi, que je connaissais bien depuis longtemps. Et,
à l'enterrement d'Autant Lara. Hein? Vous parlez de l'enterrement d'Autant Lara.
Son enterrement, oui. À Montmartre. J'étais avec Max Douy et deux ou trois types. Il y avait un acteur français que je connaissais un peu, mais on se demandait ce qui allait se passer, parce qu'il se passait, il n'y a pas de, évidemment pas de curé comme vous pouvez imaginer. Enfin bref, et on s'est dit qu'est-ce qui va se passer, et tout à coup est arrivé un type avec trois ou quatre types derrière, et c'était Monsieur Le Pen. Et ça faisait une drôle d'impression, bien sûr. Et Le Pen a fait un discours. Je pense que... Moi, je ne l'ai pas, évidemment. Je n'ai pas été tapé sur le ventre de Le Pen. Mais il a fait un discours, à mon avis, extrêmement bien. Là, parce qu'il a parlé que de ça. Des accords de la France et de l'Amérique. Pour lui, il faut savoir que ses parents étaient des gens très distingués, mais qui étaient anti-catholiques, anti-France. Hein. Et sa mère n'a jamais voulu parler de la France au moment de la guerre de 14-18. Elle a toujours dit qu'elle était contre. Elle a refusé des choses. Même si, avec son mari, il faisait un film sur Claudel, des choses comme ça. Sa mère était une grande, violente, anti-militariste. D'ailleurs, dans les films de Lara, ça, je n'ai pas dit ça, mais il y a un film qui n'est pas bon de lui, le dernier qu'il a fait, qui n'est pas bon. Hein. Non, parce que c'est une histoire que c'était fait avec le marchand d'avion, enfin tout ça.
Mais Gloria. Hein, Gloria.
Oui, Gloria, oui, ouais. C'est pas bien. Non, mais lui-même savait que ça, c'était pas bien. Mais là, il y a un moment assez drôle là-dedans, que je n'ai pas signalé, là, mais il y a un moment assez drôle, il y a une femme qui chante la Marseillaise comme sa mère pouvait la chanter, c'est-à-dire contre la Marseillaise, c'est-à-dire contre la France. Et ça, c'est un plan assez extraordinaire dans ce film. Nul, absolument nul.
La question de l'équipe, les gens réguliers avec lesquels
alors,
ils
moi,
travaillent.
Alors, moi, j'aimais pas beaucoup. Je n'aimais pas beaucoup le musicien, son musicien, mais c'était un copain à lui.
Parce que moi, j'avais une question... Justement, on en parlait sur pourquoi c'est toujours aussi. René Cloërec, qui est un très mauvais musicien.
Parce qu'il était un copain.
Ah. Voilà, parce qu'on voulait en parler, justement.
On en a parlé, j'en ai parlé 20 fois avec lui.
Ça gâche j'ai dit, vraiment.
Oui, beaucoup. Ça gâche des films.
Moi, je ne le connaissais pas, en plus, ce type. Oui. Je n'ai jamais rencontré. Non, mais il a je ne sais pas. Madeleine Gougé, enfin, il y avait des oui. femmes autour de lui. Et là, il a toujours été un gros... C'est un type de groupe.
Oui.
C'est un type
oui.
de groupe. Mais ça, c'était le côté, à l'époque, communiste. Enfin, c'était... Ça, on faisait ça.
Et alors,
vous n'avez pas connu ça, mais... Ouais.
Non, mais Cloërec, alors, c'était un copain, lui.
Oui, c'était un type qu'il aimait. Voilà. C'est...
Et il faisait ce qu'il voulait.
Il a jamais... ouais, vous avez trouvé que ce n'était pas très bien aussi.
Voilà, parce que pour moi, ça gâche plusieurs
ouais.
films.
Ah, ben, oui,
je revoyais vrai. Le blé en c'est herbe, drôle, qui est magnifique à l'image.
Je crois que je lui en ai... Peut-être oui. dans le film en question, peut-être que je lui en ai parlé, parce que j'en ai parlé souvent avec lui de ça.
Et qu'est-ce
c'est
qu'il...
extrêmement emphatique.
Et qu'est-ce qu'il disait, lui, de ça?
Ben, il aimait bien ce type. Enfin,
oui, c'est lourd.
Mais il avait comme ça des ouais, il a gardé beaucoup de comprenez, c'est un type que j'ai trouvé toujours tout à fait sympathique, plus que sympathique. Hein. Mais en même temps, il pouvait être contre un type. Ouais. Par exemple, avec Perret,
ils se
sont gueulés comme pas possible. Voilà. Il était comme ça. Hein. Alors,
Tu évoquais des femmes autour de lui. C'est qui ces femmes? Enfin, il y a déjà Ghislaine, que tu connaissais. Tu as dit que tu la voyais à Paris. Ghislaine Aubouin, sans sa femme ou son ex-femme.
Oui, après, il comprend, c'est un peu compliqué, les femmes.
Ah.
Non, il y avait sa femme, mais sa femme est morte à un moment donné.
Ah ben.
Et moi, j'ai connu surtout après la mort de sa femme, où il avait une fille qui est dans tous les films, qui était monteuse, qui a beaucoup travaillé avec, et il a fini chez elle, à Antibes, il était à Antibes chez la dame.
Madeleine Gugue,
son nom, je dois avoir donné son nom quelque part. Et puis,
c'est ça, Madeleine Gugue.
Et puis, il avait des... il avait des rapports avec les femmes assez bien. Mais ce n'était pas Weinstein, hein, c'était un type comme ça.
Tant mieux.
Non, il était très... Mais enfin, il avait comme... Il avait un groupe de gens. Alors ça, je voulais aussi dire ça. Donc, il est parti de sa famille. Cette famille était une grande famille. Voilà, son père était un type assez important. Sa femme était donc à la Comédie. Et lui, il est entré un peu dans le cadre des... avec Cocteau. Il y a eu ils ont fait un journal avec Cocteau, et puis ça lui plaisait pas beaucoup. Alors après, il est parti en Angleterre, il est parti en Amérique, il parlait évidemment forcément bien l'anglais, et puis alors là, et après, il est revenu en France. Puis alors là, il a fait cette partie un peu de choses un peu graphistes. Enfin, une sorte de... Ça se voit dans les génériques, d'ailleurs. C'est des génériques très joliment faits. Il y avait... Ces films sont assez bien. Il n'y avait pas encore exactement la rogne. Et puis après, il y a la rogne vient surtout avec Philippe, parce que
avec Gérard Philippe.
Ouais, Gérard ne voulait pas jouer parce que il se trouvait trop âgé.
Oui. Même chose avec le Rouge et le Noir après.
C'est d'ailleurs, si vous lisez le livre, c'est vrai qu'il est un peu âgé.
Oui.
Mais enfin, Philippe avait déjà à l'époque. Moi, comme j'allais à Paris, je voyais des gens, j'avais déjà vu Philippe dans des choses de Pichette. Je ne sais pas, vous connaissez peut-être même pas Pichette. Vous ne connaissez même plus Pichette. Oui, putain, c'est un titre assez extravagant. Et il jouait Pichette. Ouais, mais c'était un travail de comédien comme on ne voit plus. Il creux, à la fin du spectacle, il tombait. Il était mort. C'est comme ça que Gérard Philippe est devenu cette espèce de type extraordinaire chez Villard et tout ça. Alors, il ne voulait pas, et puis finalement, il est obligé de faire ça. Et après, en plus, il voulait ne plus jouer non plus le Stendhal. La production aussi, c'était... Non, en fait, il a toujours travaillé avec des grosses productions, Deutschmeister, etc. Et bon. Mais en même temps, ces types, les producteurs, vous savez, ils font des accords les uns avec les autres, etc. Alors, il râlait contre les producteurs parce que les producteurs souvent se demandait que la censure a raison de couper cette scène. Et là, alors lui, il râlait affreux, il disait, c'est pas possible. Enfin, tous les films, le film avec Colette, ça a été massacré d'un bout à l'autre.
Le blé en herbe.
Le
blé en herbe,
ouais. Oui. Ça a été massacré complètement. Oui, mais n'oubliez pas, moi j'en ai un peu parlé de ça, mais par exemple, le blé en herbe, il y a eu les trucs de catholiques, je ne sais pas ce que vous en êtes, si vous êtes ou pas, mais les catholiques étaient affreux. Ils ont fait des mouvements comme ça existe encore maintenant, comme Madame Boutin qui vient de mourir. Non, qui vient de mourir. Non, pas de mourir. Non, mais après, voilà. Il était considéré. Tous les films. Quand vous voyez des journaux, des trucs de ciné-club catholique, il avait toujours un point noir. Jamais un point, même pas un petit point. C'était toujours. On ne pouvait pas voir ça. Alors là, évidemment, ça c'est.
Et donc ils avaient monté cette maison de production pour essayer de, ouais, mais d'être autonome.
Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit sur le blé en herbe. L'autre, le film avec Gérard, qui a été à Venise. Et puis il a vu que c'était fait par un producteur français, puis il a vu que le producteur français avait déjà vendu ça aux Américains et que ça commençait un film. Il y a un type qui est venu parler et qui a dit voilà un film français, mais enfin quand même de production américaine. La sortie du Stendhal à Bruxelles, l'ambassadeur de France s'est levé. Enfin, tout le monde a dit quelle horreur. Après évidemment, il y a des autres types. Là, il y a Truffaut a dit beaucoup de mal de Laurent Chabot parce qu'en disant c'est comme ça. Alors, ils détestaient évidemment Orange, mais enfin, un jour, moi, je les ai mis en rapport avec Jean-Luc. J'ai dit à Jean-Luc, écoute,
Jean-Luc Godard.
Ouais. Je voulais faire un truc ensemble. Et puis, Jean-Luc était d'accord. Et puis après, je lui ai dit à Claude, il est d'accord.
C'est le film à sketch.
Non, parce qu'il y avait. C'était après les régates de San Francisco.
Le plus vieux métier
Les régates aussi, ça a été mal pris. C'était beaucoup coupé par un type affreux, une espèce de producteur assez affreux. Et puis après,
il m'a dit. Le blé en herbe, ça a été coupé, mais vraiment? Parce que Claude Autant-Lara lui-même a quand même voulu faire, enfin, ça l'arrangeait de faire aussi certaines coupes, parce que nous on a le
niveau du scénario. Oui. Ah, mais enfin quand même, il m'a dit pourquoi ce type il trouve ça bien alors que c'est affreux. Bon, et puis finalement c'est lui qui m'a dit, oh, j'ai pas envie de faire ça. Je regrette parce que ça aurait pu être assez marrant. Encore qu'à l'époque, c'était un peu compliqué parce que Jean-Luc, ils étaient la même chose. C'est des gens qui ont cassé la baraque tout le temps. C'est ça. On ne sait pas très bien pourquoi, mais enfin, c'est comme ça. C'est ce que j'aimais bien en lui. Hein, c'est ce côté. Les premiers films, quand même, les premiers films sont assez intéressants parce que le premier film avec Artaud, c'est quand même important. Pour moi, Artaud, c'est le faux sommet. Alors, Artaud, puis après, quand il retrouve Prévert, ça marche assez bien avec Prévert. Mais après, ils ont des problèmes de censure. Ça a été complètement cassé aussi.
Ciboulette.
Cassé. ça passait dans les tribunaux, enfin, des histoires affreuses. Alors, mais alors il râlait. C'est pour ça que j'ai dit que ce livre, je le donnais à Losfeld, parce que Losfeld, c'était un libraire de Paris dont tous les livres étaient, à l'époque, complètement brisés. On leur enlevait des pages partout.
Bande dessinée.
C'était incroyable.
Ça croise l'histoire de la bande dessinée.
Alors, il a quand même vécu ça. C'est quand on fait ces choses. Et puis, c'est un homme qui croyait à son métier. Ce n'est pas tous les, tous les cinéastes. Ça. C'était un type qui avait envie, il avait envie de dire des choses, ça c'est sûr. Et il avait envie de dire sa rogne, forcément.
Et pourquoi est-ce qu'il était tellement en colère tout le temps?
Ben, à cause de ses producteurs qui l'obligeaient, qui étaient d'accord avec les censures. Probablement, il disait, voilà, des types affreux. Il ajoutait même, c'est peut-être des juifs.
Ah, oui.
Alors là, bon. Mais de ça, moi, je n'ai pas parlé. Hein.
Non.
Parce qu'à la... Alors, je peux quand même vous dire ça, parce que... Et je ne sais pas si vous avez lu les livres de Lara.
Oui.
On a essayé.
Oui, on a essayé.
La rage au cœur et tout ça. Mais,
oh là là, oui.
Ouais,
c'est dur.
Là, mais enfin, parce que moi, je lui ai dit ça. C'est quand même un peu gênant, le truc d'être représentant pour le front à Strasbourg.
Oui.
Alors, il m'a,
oui.
Ça, il m'a dit, j'ai regardé. Je suis le plus vieux. Donc, comme plus vieux, c'est moi qui aurai le discours. Je vais là-bas, je fais un discours et je les envoie. Et je reviens, mais je ne veux plus en parler avec eux. Voilà.
Mais comment ça s'est fait, la discussion autour des archives? Parce qu'évidemment, nous, une des raisons aussi qui fait qu'on s'intéresse à Otalara, c'est qu'il a bien conservé, enfin, il a beaucoup conservé, parce que des archives de cinéastes. Alors, où les gens gardent rien, mais lui, il l'a beaucoup conservé.
Les archives, il m'avait montré ça. Quand il faisait un film, ça c'est formidable, parce que les types qui font des films, après, tout ça part n'importe comment, c'est fini. Lui, il faisait des petits paquets avec ce qu'il a gagné, ce qu'il avait donné, tout ça. Et des petits paquets, tous ces petits paquets sont là. Il a gardé des lettres, etc.
Et puis les archives, elles sont arrivées en 2000. C'est là qu'a été faite cette
expérience. Oui, alors les archives. Ouais, moi, après, j'ai quitté la Cinémathèque. Et puis j'ai dit à Dumont, il y a toutes ces archives à ramasser à Antibes. Et alors, c'est lui qui a mis les, je ne sais pas combien, de camions qui sont descendus. Il y a Chevalier qui était là.
Vous dites dans votre livre que Otan Lara, c'est un moraliste et pas un sociologue. Et ça m'a intéressée parce que ces films sont quand même sociologiques, pas certains. Et je voulais savoir
ce que
vous vouliez dire.
Il y a de la sociologie dans les films sur les femmes.
Les femmes en blanc.
Oui, mais en même temps, non. C'était véritablement un moraliste parce que il voulait parler de ce qui lui semblait important dans les rapports des hommes ou des femmes entre elles, et il voulait le faire contre les institutions générales et la religion en général. Donc, voilà.
Il est situé souvent à d'autres époques.
Il avait de la culture. Ce n'était pas un type nul.
Mm-hmm. Non.
Contrairement à beaucoup de cinéastes aujourd'hui. Non, il avait quand même fait de la... Ses parents lui avaient appris beaucoup de choses. Il savait très, très bien... On pouvait parler de Montaigne et tout ça, on était bien d'accord. Mais en fait, il y avait une véritable rogne contre le... Mais enfin...
Ça pourrait être sociologique, moi, je dois dire rogne quand même.
Oui. J'étais d'accord avec lui dans ce domaine. Moi, j'ai écrit un livre sur Buñuel qui est, dont les gens ne parlent pas. Heureusement, ça n'a pas d'importance, mais je suis totalement contre tout ça. D'ailleurs, d'accord avec Buñuel, d'ailleurs. Mais lui, il aimait bien Buñuel. Il ne le connaissait pas bien, d'ailleurs.
Non, il a un scénariste, il y a un film qui est co-scénarisé par Ghislaine et un scénariste qui a travaillé avec Buñuel.
Jean-Claude Carrière ou...
Non, pas aussi connu.
Non, pas aussi connu.
C'est lequel? Peut-être Marguerite de la Nuit. Oui, Gabriel Arroux.
Oui. Ah oui, Arroux, oui, mais parce qu'Arroux... oui, ça c'est bon, parce que ça c'est un type que j'ai connu aussi, parce qu'il a joué dans les films de Michel Souterre.
D'accord.
Oui. Vous voyez, ça c'est une longue histoire du cinéma suisse.
Suisse, d'accord.
Que les gens connaissent pas du tout. Non. S'en foutent complètement. Alors ça, même si vous êtes étudiant en cinéma, les gens s'en foutent totalement.
Même en Suisse?
Ouais.
Non.
Ouais, non.
Moi, j'avais une question.
Non, mais parce qu'Arroux, justement, Arroux, il était parent, enfin, etc. Ouais, bon, bref. Et il joue dans un film de Goretta aussi. Enfin, ou dans un téléfilm de Goretta. Enfin, bref. Oui, enfin, Gabriel Arroux. Il avait la particularité de parler russe et d'être parler français, voilà. C'est drôle.
Stendhal. Voilà, hein. Autant Lara et Stendhal. Parce que moi, je trouvais étonnant que tu aies consacré un chapitre. Enfin, étonnant, non, mais il y a vraiment un chapitre sur le rouge et le noir. Il n'a pas le même statut tout à fait que les autres. Ton chapitre 4, ça s'appelle juste le rouge et le noir. Alors que les autres, c'est souvent deux films. Enfin, tu lui accordes un statut un peu particulier au rouge et le noir.
Oui, parce que. Alors, sur le rouge et le noir, d'abord, il y a les bellistes.
Oui.
Voilà. Alors, on peut déjà parler avec les bellistes. Hein, ceux qui disaient, c'est un scandale de faire ça. D'abord, d'avoir changé le système. D'avoir changé la narration.
Ah oui.
Ça commence par la fin.
Oui.
Ouais, j'ai fait un long article sur le début du film.
Quelle horreur! Alors, j'ai même été, pas beaucoup, mais enfin, je connaissais bien les bellistes. Ce type, il ne voulait pas discuter le coup. Il trouvait ça affreux de faire ça. Et moi, j'ai trouvé ça, au contraire, assez intelligent, ça.
Ah, mais c'est la meilleure idée du film. Moi, j'ai écrit un long article uniquement sur ça.
Oui,
sur
les les Stendhaliens. Comment ça dire toujours, les Stendhaliens? Il y a des gens qui sont là, qui disent ah, mais quelle horreur. Bon. Alors, oui, moi, j'ai. Parce que.
Mais ça, en plus, thématisait le lien à la situation présente. Ça, c'est un quand même des éléments assez importants dans ces films. C'est même quand c'est dans une. Quelle que soit un peu l'époque, il montre bien le lien avec l'époque.
Ouais, je parlais de ça avec Bertrand, avec Tavernier, parce que il me dit, ouais, mais tu vois, quand même, c'était les éclairages de l'époque sont des éclairages un peu pas très bien. Bon, on peut discuter
dans
de ça.
Noir, dans le rouge et le noir.
Hein?
Il parlait du rouge et du noir, rouge et le noir.
Ouais, c'est vrai, dans le rouge et le noir.
On peut discuter de ça. Mais enfin...
En même temps, ces films les plus léchés sont pas les mieux.
Il y a un moment où elle sort et Gérard Philippe fait semblant de dormir et dort. Elle est dans un couloir.
Oui,
vous rappelez,
oui,
il y a
tout
le couloir, il y a une fleur.
Oui, avec les fleurs, oui.
Oui,
le bouquet.
Et puis elle avance, elle va jusqu'à la porte, puis elle revient en arrière, etc.
Oui.
Ça, c'est une scène.
Superbe.
Puis je disais ça à Bertrand, ça, c'est quand même une scène formidable. Cette scène de chez Romère, que par ailleurs, on ne dit pas qu'il était aussi d'extrême droite, même des gens qui écrivent sur Romer aujourd'hui dans votre société, là.
Il y a la nouvelle version du
Je sais pas ce qu'elle en dit. Non, mais enfin, c'est un type d'extrême droite.
Oui.
Ouais, ben bon, ben, oui, mais... Eh ben, là, il y a un moment, parce qu'elle est vraiment très, très bien, là, Danielle Darrieux.
Oui.
Là, elle est là, elle revient en arrière, et je trouve que c'est un très beau moment de cinéma, ça. Tout ce qu'on veut, on peut dire tout ce qu'on veut de ça, mais ça, il y a un très beau moment de cinéma. Et donc, par ailleurs, c'est quand même un très beau film.
Mais je peux revenir pour Stendhal, oui. Parce que vous dites il se comparait à Stendhal, ouais, de façon ça, immodeste.
Ah, oui, quand même.
Quand même, vous le dites. Mais est-ce que vous pouvez en dire plus? Il se comparait à Stendhal
Oui, parce que, oui, quand même... Il se comparait à Stendhal, enfin, il pensait qu'il avait la même violence dans la société. Mm-hmm. Enfin, quand même, Stendhal, c'est pas n'importe quoi. Donc, c'est vrai qu'il se comparait surtout à Stendhal, lui.
Mais pourquoi cette obsession pour adapter tous les Stendhal? Parce que oui. Lucien Leuven, il y a eu quand même beaucoup, mais finalement, oui. Il a pu faire le film.
Alors là, il
La Chartreuse.
La Chartreuse et
c'est la jamais.
Non, vous avez vu le Stendhal de la fin,
Lucien Leuven.
Pour la télé.
Lucien
Leuven. Comment vous l'avez trouvé, ça?
Il est sorti en DVD. Hein? Il est sorti en DVD, les 6 épisodes.
Ouais. Vous l'avez vu?
Oui, il est sorti en DVD.
Ah bon?
Oui.
Non, parce que là, je lui avais demandé de venir à Lausanne.
Je l'ai commandé.
Il y avait Céla à l'époque, il y avait un prof que Céla. Et puis il avait. Là aussi, parce que le film, le roman n'était pas fini. Mm-hmm. Alors il avait fait une fin.
Oui.
Là, il me rappelle qu'il y a eu toute une histoire.
On l'a critiqué entre, pour ça.
Oui, oui, entre Céla et Lara. Céla trouvait ça pas bien. Trouvait ça d'ailleurs avec un petit côté de droite déjà qui était donné. Et qu'il disait qu'il n'était pas sur Stendhal. Enfin, voilà. Oui, enfin. Non, bien entendu qu'il y a de la sociologie. Je n'ai pas revu, moi, je n'ai pas revu les deux femmes, là. Parce que c'était une époque assez... Il y a encore l'époque, bien sûr, pour savoir quand ça a lieu. Alors, évidemment, ça c'était... Il y a des trucs d'avortement en France.
Oui.
Faisaient du bruit partout, on crie... Comme aujourd'hui, on parle de...
Oui, oui. Non, c'est des films en avance sur leur temps. Hein,
l'avortement en France. Oui. Enfin, il y a eu un film de Chabrol.
Oui,
assez, bon.
Histoire de femme.
Oui, ouais, ça, c'était d'ailleurs pas mal. Alors là, à cette époque... Alors là, par exemple, il aimait bien cette fille, la première femme... Comment ça s'appelle?
Marie-Josée Nat.
Non.
L'actrice.
Oui,
Marie-Josée Nat. Dans le premier.
Et puis après, il a dû prendre l'autre actrice.
Oui.
Parce que Marie-Josée Nat n'a pas voulu prendre ça.
Voilà.
Elle disait que ça lui donnait une idée. Enfin, c'est bon,
elle a eu tort.
Compliqué.
Elle a eu tort, d'ailleurs.
Ouais, c'est sûrement. Oui. Ouais, je pense qu'elle a eu tort.
L'autre est très bien, mais bon, ce n'est pas Marie-Josée Nat.
Oui, il y a eu ça, voilà. Ouais. Bon, enfin, voilà. Mais il me semble qu'à l'époque, ça pouvait quand même dire des choses.
Oui, il était en avance sur la loi. Ce sont des films
qui ont fait bouger. Oui, c'est ça. Je ne me rappelle plus très bien.
Oui.
Quoi.
La loi Neuwirth, les films ont contribué un peu à ça. Oui,
là, je peux vous raconter une histoire tout à fait marrante. Moi, j'avais... Non, mais c'est assez drôle. J'avais mon petit bureau, là, à la cathédrale. Vous n'êtes pas venu quand j'étais à la cathédrale
vous... Non, mais vous en parlez dans le livre, et justement, je n'ai pas compris pourquoi votre bureau était à côté d'un...
Ah ben oui. Voilà. Alors, ben, oui, alors, ben, j'en parle. Oui, oui. Justement, j'en, ah ben, oui, j'en parle.
Oui, oui.
C'était formidable, ça. Non, parce qu'à l'époque, naturellement, en France, les filles qui avaient des problèmes, elles venaient avorter en Suisse.
Oui.
On venait avorter dans les belles cliniques, comme ça, c'était bien connu. Il y avait un film de Grémillon là-dessus. Enfin, elles venaient. Et puis. Après, quand j'étais là-haut, j'avais un bureau qui était à côté d'un bureau qui, deux fois par semaine, était tenu par des médecins distingués qui prenaient les demoiselles. Alors, quand j'arrivais à 8 heures du matin, j'entrais et il y avait déjà 20 ou 25 femmes qui étaient là. Dans mauvais état, me regardant, puis qui me disait un mot en passant. Parce que ces médecins qu'elles allaient voir après leur disaient « Ah, oh, si vous êtes... ben voilà, on ne peut pas vous donner un papier pour avorter, donc on vous fera un bon papier. » Et puis elles repartaient en triste état à la gare, enfin voilà. Et là, je vois, elle me prenait pour le médecin. Et moi, j'entrais là pour la cimatée. Et puis, elle me disait, oh, écoutez, je disais, mais je ne suis pas dans le coup. Et voilà, parce que là, mais c'était affreux, ça. C'était un moment absolument affreux, parce que, oui, je sais pas comment j'en ai parlé, mais... C'était un moment quand même étrange de voir ces femmes qui étaient... Non, les femmes qui... écoutez, les femmes qui avaient de l'argent, elles allaient à la clinique, elles faisaient ça, c'était en ordre, pas de problème. Il n'y avait aucun problème. Mais les pauvres filles qui étaient là et qui cherchaient un avortement, les types leur faisaient un petit papier, mais ils leur donnaient pas la possibilité d'avorter. Alors, ça m'avait beaucoup frappé quand même, ça. Alors, je ne sais pas pourquoi j'en ai parlé, mais oui
vous dites, parce vous que parlez de votre bureau, ça, oui.
Hein?
Oui, et justement, on s'est dit plusieurs fois que sur les femmes, il a l'air d'être assez en avance sur son temps, tout le temps, dès l'occupation. Mais
enfin, écoutez, ouais. Là, quand même, le Colette, ça a fait du bruit.
Oui, oui, même avant ça,
bien sûr. Mais enfin, le Colette, ça a été affreux, ça a été vraiment affreux.
Est-ce que vous savez d'où ça lui venait? Enfin, est-ce qu'il avait un discours particulier là-dessus en dehors?
Ah ouais, non, mais je pense qu'il avait, il était un homme normal. Là, je pensais, d'abord, il aimait bien sa femme, ça c'est vrai. Enfin, il n'a pas fait des trucs comme M. Weinstein. Et puis voilà. et d'ailleurs, il voulait faire ça. Le rapport des femmes et des hommes dans les entreprises, ça l'avait beaucoup frappé. Probablement plus qu'à beaucoup de communistes à l'époque. Oui. Les communistes s'en préoccupaient pas tellement de ça. Mais lui, non, il était quand même... C'est pour ça que je disais que le côté moraliste, il voulait voir ça. Mais je pense que ça...
Peut-être qu'il y avait l'influence de sa mère aussi. Qui était
sa mère était vraiment... Sa mère a été à la base de beaucoup de choses, là.
Mais quand tu as écrit le livre, pour revenir sur la présentation des femmes, toi, tu es assez attentif. Tu mets en évidence, alors notamment dans le Blanc-Lair, je vais citer Frédéric Buache, hein. Tu dis, à cette proposition typiquement bourgeoise... C'est quand le jeune homme lui dit « mais je vais à Paris, et puis tu passeras parfois, et puis on se verra, et voilà », qui devrait cataloguer la Dame Blanche en la chosifiant comme sa maîtresse en titre, elle répond par une vraie leçon de morale. Oui. Et donc là, on voit bien que tu es aussi dans la grille d'interprétation
qui est la, on pourrait dire que c'est de la sociologie aussi, mais etc. Voilà, que ne pouvaient évidemment pas comprendre les gendarmes du cartel, ni le public masculin qui seul disposait du pouvoir de la parole à l'époque.
Ouais, donc ouais. C'est vrai que dans, là on est en 80, dans la manière dont tu as de décrire le film, c'est vraiment un élément que tu mets en évidence. Ouais. Pour toi, c'était quand même une particularité d'Autant Lara. Ça, ah, oui, tu l'aurais dit ouais, de Coin.
Là, je dis ça parce que moi, j'avais une femme qui était évidemment du côté des femmes. Et donc, j'ai appris avec elle beaucoup de choses. Et puis, voilà, elle connaissait bien Lara aussi. C'est un type qui avait beaucoup de... Il devait avoir quelques ennemis sérieux, mais... Par ailleurs, c'est un type qui était d'une grande gentillesse, d'une douceur, une espèce de douceur, et puis une espèce de grande violence, notamment contre les institutions, notamment la religion, ça l'agaçait absolument. Il ne pouvait pas supporter ça. Mais enfin, moi, j'ai écrit ça parce que j'étais d'accord avec lui, bien sûr.
Et vous savez,
j'aurais pas écrit le livre.
Et vous savez si Ghislaine, sa femme, elle était aussi du côté des femmes, elle était aussi...
Oui, je pense qu'elle était aussi de la CGT, enfin voilà.
Mais est-ce qu'elle l'a influencée, vous pensez, sur le choix de sujet, par exemple?
Je pense, parce que... c'est quand même des gens aussi littéraires. Mm-hmm. Et elle devait probablement... Il devait entre eux, il a toujours chanté les louanges de cette femme. Comme il faudrait que je demande, peut-être Charder l'a peut-être un peu mieux connu. Moi, je l'ai pas bien connu. Quand j'ai fait le truc à Locarno, elle était déjà plus de ce monde. Mm-hmm. Et là, j'étais avec Madeleine Gugg,
la monteuse,
qui était. Qui l'adorait. Elle adorait Autant Lara. Mais les gens qui travaillaient avec lui l'adoraient. C'est ça qui est drôle. Hein. Les gens l'adoraient.
Il divisait les gens. Alors, on dirait maintenant qu'il était clivant. Soit on l'adorait, soit on le détestait.
Oui, c'est probable. Ça, ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais.
On avait aussi des questions sur ses rapports avec les acteurs et les actrices.
Mm-hmm. Oui, alors...
Parce qu'il y a des gens qui reviennent régulièrement. Il y a Odette Joyeux, évidemment, au début. Il y a Darieux, il y a Philippe. Ouais.
Gabin, un peu.
Gabin.
Oui. Alors, ça dépend des acteurs et des actrices. Je pense qu'avec Daniel Darieux, il y avait une espèce de côté... Il était le père de Daniel, je pense. Un peu, il y avait entre eux quelque chose de tout à fait important. J'ai été étonné de voir la mort de Daniel, là, qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça. Je pense que... d'abord, c'était une actrice sûrement assez importante, sans en avoir l'air, même si elle a fait un peu n'importe quoi. Je pense, par exemple, sur le rouge et le noir, je pense qu'elle est, elle a tout à fait très bien compris ça, qu'elle travaillait avec lui et qu'il se mettait la main dans la main, ça marchait. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de l'italienne qu'on voit après.
Antonella, le ami.
C'est pas tout à fait la même chose. Et donc ça. Alors, avec Gabin, Gabin, non, il avait une grande admiration pour Gabin. D'ailleurs, j'espère que, comme tout le monde, une grande admiration pour Gabin. C'est un côté, je sais pas quoi, de ce type qui représentait quand même le peuple. Et il avait... une grande admiration pour... Et il m'a dit, quand il a travaillé là avec Bardot...
En cas de malheur.
Oui.
Là, alors, les lettres Gabin-Autant Lara sont salées.
Ouais. Alors là, ça s'était justement pas,
là,
pas
ça très bien passé. Ouais, ouais.
Il m'a dit, parce que Gabin, enfin, je sais pas, moi, j'ai pas connu Gabin, donc.
Autant Lara, dans ses lettres, le trouvait qu'il ne donnait pas assez de peine, qu'il avait plus le rythme qu'il avait dans la traversée de Paris. En plus, il rechignait à jouer ce personnage parce qu'il se disait que ça avait un impact négatif sur son image, en plus maintenant qu'il était devenu paternel.
Sûrement. Parce qu'un jour, il m'a dit, Gabin, il m'emmerdait ce matin et je lui ai envoyé une gifle. Et puis j'ai dit, comment il a... Ah, il n'a pas réagi. Ah,
bah. Bon, après, il y avait un huissier sur le bateau.
Évidemment, il avait des relations avec Bourvil. Bourvil, tout à fait étonnant. Mais il faut dire que Bourvil, c'est pas n'importe quoi. Ça, c'est toi dire, c'est pas tout à fait n'importe quoi. C'est assez drôle, parce que c'est un type de la campagne, fait des choses assez nulles, mais pas toujours d'ailleurs. Et donc là, c'est assez curieux. Il était à Locarno quand Bourvil est mort. C'est lui qui a fait il faut faire un discours. Il a fait un discours très 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 bien sur la mort de Bourvil. Ben, évidemment, ça avait eu le succès que ça avait avec la traversée de Paris. Bourvil, c'était assez curieux. Ça ne me paraissait pas un acteur français de type normal. Voilà. c'est assez drôle, ce type-là.
Trop campagnard, oui.
C'est assez drôle, ça.
Mais la jument verte a eu du succès.
Avec les femmes, je crois que ça... Non, je pense qu'il a... Enfin, je ne vois pas qui... Avec Mania... Ouais, alors là, j'ai cité un petit bout de truc, oui. Là, parce que ma femme est allée... Moi, je ne suis pas allée... Quand il tournait avec Magnani, là, j'ai cité ça quelque part dans ce livre.
Josepha. Mago de Josepha. Le magot de Josepha. Le film s'appelle Le magot de Josepha. Parce qu'Alain demandait.
Ouais. Oui. Alors,
c'est un des derniers. Enfin, c'est les années 60.
Oui, c'est ça. Alors, il avait une grande admiration pour elle. Bon, enfin, on avait forcément une admiration forcément pour elle. Il avait une grande admiration pour elle. Mais ma femme est restée quelque temps avec eux, là, dans un village où ils tournaient. Et... Puis-je dire encore un mot sur lui? Elle venait au moment du plateau, elle savait, et puis elle repartait. Elle vivait avec son chien plutôt dans une roulotte. Elle ne voulait pas voir beaucoup de monde.
Anna Magnani.
Oui.
Ouais.
Oui.
Ah, mais vous étiez sur le plateau, non? Vous étiez aussi sur le plateau?
Non, moi, je n'y suis pas allée.
Là,
je
vous racontez.
C'était ma femme.
Oui.
Alors, j'avais
elle cité, raconte,
parce que
oui.
Ma femme, elle écrivait des fois dans les journaux par là. Et un jour, elle a fait un truc sur le tournage. Elle avait tourné ça. Non, alors, il y avait un truc qui énervait beaucoup les acteurs ou les actrices. C'est que il avait une idée du personnage...
Oui.
Alors, il donnait cette idée et après, il jouait en même
il
temps.
Il mimait, oui.
Alors, ça pouvait énerver les acteurs.
Ça les énervait beaucoup, oui.
Il s'intéressait beaucoup à la littérature parce qu'il cherchait des. Mais surtout dans la deuxième partie de sa vie, là, il fallait qu'il trouve des choses à faire. Un peu pour les films sont pas toujours bons, hein, les patates et tout ça, l'histoire avec Perret, mais enfin d'abord, mais il lisait comme ça. Moi, je lui ai donné des livres de chef et enfin, il lisait quand même. Des types que là, il est assez bien carné. pour lui, c'était Renoir. Mais enfin, comme tout le monde, c'était Renoir le plus important. Ah. Donc, lui, disait Renoir.
Et il le connaissait ?
Oui, oui, ça, oui, assez bien même. Dans les cinéastes que moi, je disons que j'ai un peu connus, pour moi, Lara me paraît un type tout à fait impeccable pour moi. Bah, encore un, peut-être encore plus fort, c'est Fritz Lang. Disons que ma vieillesse m'a un peu à penser à, comment dire, à ne pas trop me préoccuper des relations politiques des cinéastes à un moment donné.
Parce qu'ils finissent tous mal.
Moi,
j'aimais bien Romère, mais enfin, Romère, oui. C'était quand même, voilà. Mais j'aime bien les films de Romère, enfin, voilà. Alors, si je commence à parler de Romère, ses rapports avec l'Espagne de Franco, là, vous comprenez, c'est compliqué tout ça. Mm. Ça me paraît un peu difficile de faire. Ou bien alors, c'est des vrais cinéastes, je dirais peut-être de caractère surréaliste. Il y a des surréalistes qui sont tout complètement... Franju me paraît un type formidable. Mmh. Oui, mais c'est un type formidable. C'est difficile à dire. Ben, moi, si j'avais vu Franju... avec Le Pen, je serais surpris quand même. Mais enfin, ça dépend. Mais moi, il me semble que c'est difficile de poser des questions sur ça. Mmh. Voilà.
Mais j'ai une question...
Un type qui m'a paru impeccable, quand même, je veux dire, un type que j'ai paru impeccable d'un bout à l'autre, c'est Chris Marker. Il n'était pas seulement contre la guerre, mais il était aussi contre ceux qui déclarent la guerre. Et pour lui, c'était le pape, c'était le catholicisme. Le côté religieux de tout ça. Donc, il supportait pas cette chose-là. Alors que par exemple, Clouseau, on le retrouve assez bien. Alors que quand même, ça avait fait du bruit quand il avait fait le film avec
le corbeau.
Oui, c'est ça. Ouais. Bon, aujourd'hui, on dit, bon, après tout, c'était pas si mal de faire ça. Enfin, voilà. Enfin, lui, évidemment, il a jamais... Enfin, personne... dans les grands cinéastes, il n'y en a aucun qui a été un type qui était pétainiste. Il se débrouillait... Voilà, enfin, ou alors des vrais pétainistes, Jean Chou, enfin, des gens nuls. Ouais, bon, ça va. Mais autrement, comme ça... Renoir s'est tiré, enfin voilà, c'est... Pourquoi il a pris ça ? C'est peut-être l'occasion, je ne sais pas pourquoi il a tout à coup pris Occupe-toi d'Amélie. Ce qu'il paraissait intéressant, c'était de montrer le cinéma et le théâtre qui jouaient ensemble. Là, avec des combinaisons de toute façon. Enfin, j'ai raconté cette affaire-là. Mais pourquoi avoir pris un vaudeville? Parce que, Renoir en a fait aussi. Enfin, je ne sais pas, c'est des occasions, ça dépend un peu quand vous allez trouver les producteurs qui vous disent. Qu'est-ce que vous faites, etc. Puis une occasion, ça, j'ai pas vraiment parlé. moi, j'ai parlé de dans le film en question, j'ai parlé de ça, mais c'était surtout l'idée de montrer le film en train de se faire. Voilà, c'était un peu ça. Ça l'avait paru assez drôle. D'autant plus qu'il s'intéressait à ça, parce qu'il avait fait avec l'Hypergonard, qu'on n'a pas revu après, qu'on n'a pas vu. Parce que ça, c'était aussi une manière nouvelle de faire du cinéma. Parce qu'on ne peut pas dire que chez lui, par ailleurs, il y ait des recherches particulières sur... Sauf peut-être dans ce film-là, ouais. Mais autrement, on ne peut pas dire qu'il y a des grandes recherches. Sauf que je disais la scène de la fille d'Arieux qui va et vient. Ça. Et enfin, il y a quelquefois des choses comme ça. Si vous faites un jour un truc à la Cinémathèque avec toute la... Je viendrai les revoir, moi.